Le journal, Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. 8 personnes au moins portées disparues dans les Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex. De fortes crues ont ravagé les vallées de l'arrière-pays niçois. Une centaine de maisons ont été emportées ou détruites, un désastre sans précédent. Nous irons sur place en début de journal et nous rejoindrons Alix Roumaniac, invité de cette édition, le directeur de Predict Service, filiale de Météo France. Donald Trump admis à l'hôpital après avoir été testé positif au coronavirus. Le président américain bénéficie d'un traitement expérimental considéré comme prometteur. Dans ce journal également, une audience symbolique à Catane en Sicile, Matteo Salvini comparé pour avoir empêché le débarquement de migrants durant l'été 2019. Et puis en rugby, Bernard Laporte réélu président de la Fédération française, réélu de justesse. La météo de ce samedi, la tempête Alex perd de la puissance, risque de fortes pluies sur les côtes atlantiques. Jean-Michel Golinski en fin de journal. À 13h20, Secret d'info avec aujourd'hui au programme Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur nos données de santé. Le gouvernement a souhaité les regrouper dans une plateforme qui les a confiées à Microsoft. Mais tout ça sans appel d'offres et avec le risque que la justice américaine puisse y avoir accès.
Secret d'info, Jacques Monin à 13h20.
France Inter.
Un an de pluie en seulement 10 heures. Les Alpes-Maritimes vivent un désastre sans précédent. Des torrents d'eau et de boue ont ravagé l'arrière-pays niçois. Le bilan de la tempête Alex est lourd. 8 personnes sont portées disparues, dont 2 octogénaires emportés avec leur maison par les flots et 2 sapeurs-pompiers en intervention, tombés à l'eau hier soir après l'effondrement d'une route. On est aussi sans nouvelles de 3 autres personnes. Ce matin, un gendarme qui avait également été porté disparu a finalement été retrouvé sain et sauf. Les secours mobilisés sont très importants et à la mi-journée, on est encore sans nouvelles de certains villages totalement isolés et coupés du monde. Je vous propose d'écouter le témoignage de Muriel Molinari. Elle est maire de Tournefort, dans la vallée de la Tinée, totalement isolée, route coupée, sans électricité, on est perdu, dit-elle. Muriel Molinari, jointe par Béatrice Duguay.
Il y a des maisons dégradées, des maisons perdues, des maisons à moitié dans le vide. On n'a pas d'électricité, on est un peu perdu. Et on est coupé de part en part des routes, donc on est très isolé. On n'a aucun, on n'a plus d'internet, on n'a pas d'informations. On est perdu un peu. On fait face. On se solidarise et on fait face. On a accueilli 20 personnes sur Tournefort des sinistrés de la route, 40 sur la Courbesse. On leur a fait manger avec nos moyens du bord. On s'est quand même bien débrouillé avec le cœur et Les réseaux téléphoniques, ça a été une vraie catastrophe. On ne pouvait pas se joindre avec le Hameau Courbesse et Tournefort. Donc on nous demande de mettre des plans communaux de sauvegarde, mais qui ne sont pas valables quand il arrive des sinistres. Voilà, tant qu'on n'a pas des réseaux cohérents téléphoniques, c'est pas possible de faire face à ce genre de choses.
Muriel Molinari, la maire de Tournefort dans la vallée de la Tinée. Alors les sinistrés attendent bien évidemment les secours avec impatience, des moyens de secours et de recherche considérables dans tout l'arrière-pays niçois. Même s'il est encore difficile de parler de bilan, les recherches sont en cours, elles se poursuivent. Le point à la mi-journée avec Maxime Fayolle de France Bleu Azur.
Les dernières informations de la préfecture des Alpes-Maritimes font état de 8 personnes disparues dans les vallées de la Tinée, la Vésubie et la Roya, parmi elles 2 sapeurs-pompiers. La bonne nouvelle de cette mi-journée, c'est que l'un des disparus, le commandant de gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie, a été retrouvé ce matin sain et sauf. Les secours ont néanmoins évité le pire hier. Ils ont secouru près de 250 personnes. Les crues ont été violentes et rapides. Le niveau de la Vésubie est par exemple monté de 7 mètres en l'espace de 2 heures à Utel. Résultat, des dégâts matériels très conséquents, une centaine de maisons détruites, des routes éventrées, des ponts effondrés et ce midi toujours 12 000 personnes privées d'électricité. Certains villages sont également privés d'eau potable, pour certains ils sont totalement coupés du monde. Des hélicoptères doivent d'ailleurs les réapprovisionner dans la journée.
Alors Maxime Fayolle nous le rappelle, plusieurs villages sont encore totalement coupés du monde et les moyens sont mobilisés pour venir en aide à ces habitants totalement isolés. Rémi Réchiot est le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Il est interrogé par Matteo Maestracci.
Nous avons 12 communes qui ont été particulièrement touchées, évidemment dans l'arrière-pays et le haut-pays, avec 2 sujets plus particuliers que sont Saint-Martin-Vésubie et Roquebinière en particulier, mais il y en aura d'autres. Donc nous sommes en train de recaler les communications, notamment avec Saint-Martin-de-Vésubie. Quand le bilan matériel sera acquis, nous pourrons mettre en œuvre les moyens considérables hein, qui sont mis à disposition par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de région, puisque nous allons avoir quasiment une vingtaine d'hélicoptères en tout à disposition pour pouvoir acheminer à la fois les secours, les hommes nécessaires et le matériel nécessaire. Hein. Je pense surtout aux premiers besoins vitaux que sont les besoins en eau et en électricité avec des groupes électrogènes là où ils seront le plus utiles.
Et Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est exprimé ce matin. Christian Estrosi a survolé les régions frappées par la tempête. Les dégâts sont considérables, du jamais vu, selon lui, depuis plus d'un siècle. On écoute Christian Estrosi.
Nous sommes confrontés à un désastre que je n'ai jamais connu dans les Alpes-Maritimes. Tout s'est concentré sur la Haute Vésubie. Naturellement, ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est le bilan humain. Et je veux dire à toutes les familles, pour ceux qui font l'objet de recherches très actives en ce moment, toute mon émotion, toute ma sympathie, toute mon empathie et toutes mes pensées les plus affectueuses. Et puis, naturellement, il y a ces drames, puisqu'il y a plus d'une centaine de maisons qui maintenant ont été emportées, ou sont en partie détruites, ou sont totalement isolées et endommagées, et qui ne pourront pas être, pour ces dernières, occupées avant longtemps.
Christian Estrosi, le maire de Nice, propos recueillis par Lionel Thompson. Et vous retrouverez sur notre site franceinter.fr toutes les informations complémentaires sur ces intempéries catastrophiques. Invité de ce journal, Alix Roumaniac, directeur de Predict Service, une filiale de Météo France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors monsieur Roumaniac, pour bien comprendre l'extrême violence de ces intempéries, il est tombé un an de pluie en seulement 10 à 12 heures.
Oui, c'est ça en fait, hein. C'est les zones de l'Estéron, Malocène, de la Tinée, de la Vésubie ont concentré les précipitations. À l'origine, en fait, c'est effectivement la tempête Alex qui était sur la Bretagne et qui a fait remonter de Méditerranée dans son enroulement en fait de l'air très humide chargé de Méditerranée. Et comme cela s'était passé il y a deux semaines dans le Gard au pied de l'Aigoual, là, ce sont dans ces reliefs de ces vallées que les précipitations se sont concentrées en très très peu de temps et donc du coup ont donné des ruissellements très rapides qui ont fait gonfler les cours d'eau et qui ont, tous ces cours d'eau ont abouti au Var dans l'après-midi et avec la crue qui est arrivée à Saint-Laurent-du-Var en fin de soirée.
Alix Roumaniac, un an de pluie, c'est 50 cm d'eau en quelques heures.
Oui, c'est ça.
Là, sur des montagnes très pentues.
C'est ça, oui. C'est 60 cm d'eau par mètre carré qui sont tombés sur ces montagnes très pentues en très très peu de temps. Donc du coup, ça ruisselle très très vite et ça va dans le fond de vallée, ça court le long des vallées. Et donc il y a des montées de niveaux qui sont très très rapides. Vous l'évoquiez, 5, 6, 7 mètres en 2-3 heures. Et donc c'est extrêmement rapide et c'est cataclysmique en fait.
Avec une force et une puissance terrible, on l'a vu, les images, on l'a tous en tête, les images de cette maison qui a été emportée avec ses deux habitants, malheureusement.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que on est 5 ans jour pour jour aux terribles événements qui avaient touché Cannes et Mandelieu en 2015. L'année dernière, en novembre et en décembre, la zone des Alpes-Maritimes aussi avait été très touchée. Ce qu'il faut voir, c'est que le département depuis donc a créé un syndicat, le SMIAJ, qui fait des travaux, des travaux d'endiguement, notamment sur le Var à Carros, qui a mis en place des plans de sauvegarde. Hier, tout le syndicat, les services de la préfecture, les services de secours, la gendarmerie, déjà depuis jeudi, donc avait fait passer des messages pour fermer les établissements scolaires, limiter les déplacements. Bon, tout ceci a porté ses fruits et heureusement que ça a été fait. Ouais, parce que c'est vrai que sur ces événements qui sont catastrophiques, en fait, c'est seule la prévention et vraiment la compréhension des bonnes attitudes. Hein. On a trop vu encore d'images de gens qui prennent la route dans des zones dangereuses. Il faut continuer à travailler sur cet axe-là de manière très très forte.
Alors Alix Roumaniac, est-ce qu'on doit parler de tempête ou d'épisode cyclonique? Je crois que c'est le terme que vous aviez employé il y a 15 jours dans le Gard, qui avait également été frappé par de terribles inondations.
En fait, il y a un parallèle. Hein, donc il y a deux semaines, c'était une tempête subtropicale Alpha qui était sur le golfe de Gascogne. Là, c'est une tempête Alex qui est descendue de Bretagne sur la côte atlantique et qui qui a fait remonter son enroulement de l'air humide de la Méditerranée. Donc il y a un double aspect en fait, hein, un aspect tempétueux qui est sur l'Atlantique, et puis avec ces événements méditerranéens qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, qui donnent des cumuls de plus en plus importants. On parle d'événements exceptionnels dans leur ampleur, et malheureusement on se rend compte qu'il y a une répétition temporelle et que la fréquence de ces événements augmente. On en avait parlé depuis pas mal de temps, et on sait que la Méditerranée est une mer fermée et que le GIEC l'indique comme un des hotspots du changement climatique, parce que justement avec les canicules, les étés très chauds, cette température de Méditerranée augmente, et donc c'est de plus en plus d'air très chaud, très humide qui remonte lors de ces événements. Et avec le choc, avec l'air froid qui descendait là pour Alex, qui était un froid polaire en altitude, c'est ce qui explique la violence de ce type d'événement.
Alors ces pluies, comme vous venez de nous dire, hein, qu'on qualifie d'exceptionnelles, mais qui sont en fait de plus en plus régulières, hein, sont liées au réchauffement climatique. Alors comment on peut prévoir ce genre de catastrophe, Alex Roumanuel?
Alors là, on avait fait le point avec nos collègues de Météo France, hein, depuis le début de la semaine, que ce soit au niveau de la tempête, parce que c'est vrai qu'on ce qui s'est passé sur les Alpes-Maritimes a vite fait oublier qu'il y a eu des vents à 180 km/h qui ont touché Belle-Île dans la nuit juste avant. Tous ces systèmes avaient été bien prévus par les modèles de Météo France. Avec tous les prévisionnistes, on avait pu faire passer les messages. Les vigilances rouges étaient sorties, que ce soit dans le Morbihan, que ce soit dans les Alpes-Maritimes. Mais ces événements si extrêmes, il faut continuer à travailler justement sur cette prévention, continuer à travailler, mais ça a été fait sur le fait de ne pas construire dans les zones inondables. Donc c'est tout ce travail qui doit se poursuivre, s'accélérer, et puis ça doit remettre au premier niveau toutes les discussions sur les décisions que l'on doit prendre pour lutter contre ce changement climatique, même si on sait que les décisions qu'on prendra aujourd'hui n'auront d'effet que dans quelques dizaines d'années. Mais il est urgent maintenant de prendre tous ces éléments-là au sérieux et de manière opérationnelle à prendre des actions qui marquent.
La Bretagne, vous nous disiez, les Alpes-Maritimes, malheureusement, cette nuit et ce matin, on dit que la côte atlantique et le sud Aquitaine risquent d'être touchés dans le week-end.
Oui, les équipes là, nous sont en contact avec les municipalités effectivement du Pays Basque et des Landes, hein, puisque on a la tempête Alex a donné de la houle assez importante ce matin à 6h. Cette houle est arrivée au niveau de coefficient de marée maximum. Il y a des précipitations qui continuent, donc on continue le travail ailleurs sur le territoire, donc notamment Pays Basque, également Côte d'Armor où il y a des précipitations importantes qui se mettent en place. Et donc ben voilà, le travail continue et les équipes sur le terrain doivent faire face à ces événements très importants.
Merci Alix Roumaniac, directeur de Prédic Service, une filiale de Météo France.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'autre information de la matinée aux États-Unis, Donald Trump a été admis dans un hôpital militaire près de Washington. Le président américain a été testé positif au Covid-19, a expliqué cette nuit sur Twitter qu'il pensait qu'il allait bien et qu'il remerciait tout le monde pour les messages de soutien. Loïc Loury, Donald Trump devrait rester à l'hôpital quelques jours et la Maison-Blanche se veut rassurante, Loïc, même si le dernier bulletin de santé publié cette nuit précise que Donald Trump continue à souffrir de la fatigue.
Oui, absolument, mais l'entourage de Donald Trump essaye de rassurer. Vous savez, le président est resté silencieux sur Twitter, 18 heures, autant dire pour lui une éternité. Il a finalement posté deux messages dont vous parliez, une courte allocution vidéo, d'abord où il apparaissait en bonne santé hier, juste avant de partir pour cet hôpital militaire Walter Reed, et puis ces quelques mots, je pense que ça va, merci à tous, amour en lettres capitales, objectif donc rassurer, que ce soit ses électeurs ou les marchés financiers. Donald Trump est donc hospitalisé désormais près de Washington. Il s'est montré masqué, rejoignant son hélicoptère dans l'après-midi. Ce séjour devrait durer quelques jours d'après sa porte-parole. Il a été décidé dans un souci d'extrême prudence, dit son entourage, qui assure que le président va continuer à travailler depuis cet hôpital.
Alors Loïc, Donald Trump bénéficie d'un traitement expérimental qui est considéré comme très prometteur.
Oui, absolument. Un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse, on l'apprenait hier, un traitement prometteur, mais donc, à vrai dire, peu testé, ce qui a suscité quelques critiques. Donald Trump est aussi traité actuellement à l'aide de Remdesivir, un médicament autorisé en urgence en mai dernier, qui est en train de remplir les caisses du laboratoire américain Gilead, moins controversé que l'hydroxychloroquine, mais pas franchement une panacée. Ce médicament qui est normalement administré aux patients avancés et qui permet de réduire, d'après les statistiques, la durée des séjours à l'hôpital, mais pas vraiment la mortalité face au Covid-19. Donald Trump s'est aussi vu prescrire du zinc, de la vitamine D ou de l'aspirine. Ses médecins communiquent beaucoup. Pas besoin, en revanche, de suppléments d'oxygène, dit-on pour l'instant. Reste que son état précis nous est inconnu. Le président, vous l'évoquiez, continue à souffrir de fatigue, mais il a le moral, disait hier son médecin. Les bulletins de santé du président, confinés à un mois tout pile de la présidentielle, vont désormais rythmer, Frédéric, cette fin de campagne.
Merci Loïc Loury. En Italie, c'est un procès symbolique qui s'est ouvert ce matin à Catane, en Sicile. Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue sans parti d'extrême droite, comparé ce matin devant les juges. Une audience préliminaire avant un éventuel procès pour avoir empêché le débarquement de 116 migrants durant l'été 2019. Matteo Salvini, accusé d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes, veut transformer l'audience en tribune politique. En direct de Catane, notre correspondant Bruce de Galzin. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Et donc Matteo Salvini a convoqué ses troupes pour le soutenir.
Ah oui, c'est une vraie tribune politique, hein, cette audience pour le patron de la Ligue et qui baisse dans les sondages d'opinion. Il est venu ce matin au tribunal avec quelques troupes et non loin de là, quelques opposants ont manifesté aussi dans une zone totalement bouclée. Les opposants de Catane refusent de voir leur ville envahie par les léguistes d'extrême droite et estiment le procès justifié. Mais les soutiens du patron de la Ligue sont plus nombreux ici, même s'ils se comptent plutôt en centaines qu'en milliers. La plupart se trouvent encore sur le port de Catane, là où une scène a été montée pour le show de Matteo Salvini et qui n'est toujours pas arrivé. Les juges discutent encore de la décision à prendre, poursuivre ou suspendre le procès. Devant moi, les militants de la Ligue arborent tous un t-shirt où est écrit « Faites-moi un procès aussi ». Une Romaine de 60 ans m'expliquait par exemple que Salvini avait fait ce pourquoi elle a voté. Il a défendu les frontières, c'est ce que je voulais quand je l'ai élu, alors qu'il me fasse un procès à moi aussi. Et les soutiens du patron de la Ligue sont également politiques. Toute la droite est présente ici, la droite de Forza Italia, de Berlusconi et de Fratelli d'Italia, l'autre partie d'extrême droite qui monte avec Giorgia Meloni. Elle a jugé ce matin ce procès monstrueux pour la démocratie. Une droite unie donc derrière celui qui est encore le leader de l'opposition et qui a donc bien profité de cette tribune politique et médiatique.
Et on entend derrière vous la voix des soutiens de Matteo Salvini. Bruce de Galzin, correspondant de France Inter en Italie, merci. Les combats se poursuivent au Nagorno-Karabakh entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Des tirs à l'artillerie lourde ont été entendus dans la matinée. Hier, pour la première fois, Stepanakert, la capitale de cette région séparatiste, a été touchée par des systèmes de missiles lourds. Retour en France du sport, du rugby et la fin d'une lutte âpre et d'une profonde animosité entre deux candidats et deux visions du rugby. Et c'est finalement Bernard Laporte qui gagne devant Florian Grill. Bernard Laporte réélu président de la Fédération française de rugby. Les dirigeants des clubs amateurs ont donc choisi lors d'un vote électronique. C'est une première historique dans le rugby français. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Frédéric.
Alors en direct de Marcoussi, Laporte a été réélu, mais de justesse.
Oui, ça a été un scrutin très serré, hein, on s'y attendait. Bernard Laporte s'impose avec 51,47% des voix. Florian Grill, son opposant, obtient 48,53% des voix. C'est avec un taux de participation très élevé, hein, 95% des clubs ont voté. Bernard Laporte réalise à peu près le même score qu'il y a 4 ans, mais à l'époque, il faut le rappeler, il y avait 3 listes en lice. C'est un bon score, c'est vrai, pour Florian Grill. Il finit tout près du président sortant. Il va reprendre son costume d'opposant numéro 1. Quant à Bernard Laporte, il va donc accomplir un nouveau mandat de 4 ans avec pas mal de dossiers face à lui. Il va falloir renouer le dialogue avec la Ligue professionnelle, avec le monde professionnel du rugby, essayer d'enrayer également une chute des licenciés et puis préparer au mieux la Coupe du Monde 2023 qui, on le rappelle, se déroulera en France.
Avec Fabien Galthié, du coup, à la tête des Bleus. Merci Vincent Pellegrini. Les états généraux des festivals en ce moment à Avignon. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, est venue annoncer une rallonge budgétaire de 5 millions d'euros pour 2021. En plus des 10 millions d'euros déjà versés, le spectacle vivant est le secteur le plus durement touché par la crise du coronavirus, avec une baisse de 72% du chiffre d'affaires. Et 6 mois après le début de la pandémie, les organisateurs de festivals, toutes disciplines confondues, peuvent croiser leurs expériences. Stéphane Capron.
Liliane Chauss dirige le Centre de développement chorégraphique national d'UZES. Elle a dû faire une croix cet été sur l'édition 2020 de son festival et la reprise de la saison est encore fragile.
Effectivement, c'était un crève-cœur d'arrêter le festival, mais là, on avait un spectacle ce soir qu'on a dû annuler aussi parce que la préfecture ne nous a pas donné l'autorisation. L'idée quand même, c'est qu'on continue, qu'on s'obstine. Et je pense que ces états généraux, ils sont intéressants parce qu'on est chacun dans nos histoires. On a besoin aussi d'entendre les autres et de confronter aussi nos réflexions aux autres.
Paul Fournier préside France Festival, une fédération qui existe depuis 60 ans. Elle regroupe 80 festivals. Il attendait avec impatience cette prise en compte de l'État.
Ce qui est intéressant là, c'est de voir comment la puissance publique, l'État, qui depuis 20 ans ignore les festivals, réellement, on revient à des fondamentaux, et c'est bien cette singularité et cette fragilité à la fois, et cette dimension irremplaçable des festivals dans le territoire et dans le paysage culturel, qui doit être sauvegardée.
Ces premiers états généraux des festivals auront une suite. Roselyne Bachelot a d'ores et déjà donné rendez-vous aux participants au Printemps de Bourges en 2021.
Stéphane Capron à Avignon, la météo de ce samedi.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
La tempête Alex perd de la puissance. Jean-Michel Golinski.
Alex, cette dépression qui a commencé par engendrer en fin de semaine des vents violents sur la pointe ouest, puis hier des précipitations torrentielles en particulier dans le quart sud-est, va aujourd'hui, tout en perdant en puissance, encore faire parler d'elle en traversant le pays entre l'estuaire de la Gironde et le quart nord-est, en donnant des retours pluvieux et du vent sur toute la moitié ouest du pays, avec de fortes précipitations sur les côtes d'Armor placées en vigilance orange. Des pluies également assez soutenues à prévoir sur le Limousin et le sud de l'Aquitaine. Le tout avec du vent fort, un vent d'ouest à 90 km à l'heure dans l'intérieur, mais jusqu'à 120 sur les côtes de l'Atlantique. En se déplaçant vers l'est en milieu de nuit prochaine, ce mauvais temps aura atteint les frontières, apportant pas mal de pluies de Rhône-Alpes au Grand Est. Les pluies seront moins marquées du nord du bassin parisien au Hauts-de-France. Par contre, vers la Provence et la vallée du Rhône, globalement, le temps va rester sec.